Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment bien organiser la réponse face à la crise humanitaire au Nord Kivu? On en parle aujourd'hui avec Dr Gabi Ntakala, spécialiste en santé humanitaire. Et puis dans la seconde partie de cette émission, nous aborderons un sujet qui va certainement vous intéresser. Pourquoi les billets d'avion coûtent trop cher en République démocratique du Congo? On en parle à partir des 11h05, heure de Kinshasa. Vous voulez participer à cette émission? Appelez déjà au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Mimi Kindou à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la réalisation et la coordination de cette émission qui est présente Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Capirotro. Faut revivre le tube des années 60, 70 et 80.
Balingi Babina, musique Africa.
Africa. Tu bois beaucoup et tu bois beaucoup. Tu bois beaucoup.
Rumba, pop, disco, slow. Des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Lundi et mardi à partir de 23h et le dimanche à 21h.
Vous êtes sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous parlons à présent de la réponse, de comment bien organiser la réponse face à la crise humanitaire au Nord Kivu. L'éruption du volcan Nyiragongo, suivie des tremblements de terre, a occasionné une crise humanitaire dans la province du Nord Kivu avec les déplacements de près de plus de 400 000 personnes. Les déplacés qui se retrouvent aujourd'hui dans des familles d'accueil ou dans les différents sites ont des besoins. Ils ont besoin de l'eau potable, des rations alimentaires, des installations sanitaires viables et autres. Alors comment bien organiser une réponse urgente face à la crise humanitaire au Nord Kivu, causée par le volcan Nyiragongo? Docteur Gabi Ntakala, vous êtes spécialiste en santé humanitaire. Bonjour.
Oui, bonjour Jody.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service. Alors, docteur, la crise est là. Le volcan a causé les déplacements de plus de 400 000 personnes. Certains retournent déjà à Goma, ceux qui étaient allés partis à Sake et ailleurs. Mais d'autres se retrouvent éparpillés dans la province, dans des centres d'accueil. Alors, comment bien organiser la réponse face à la crise humanitaire?
Oui, merci beaucoup. En fait, avant peut-être que je puisse répondre de manière directe à votre question, je voulais d'abord rappeler qu'une crise humanitaire, c'est un événement où il y a une série d'événements qui survient de manière brusque, de manière inattendue, suite à une cause qui peut être une cause naturelle, du genre éruption du volcan, tremblement de terre, inondation ou autre chose, ou suite à des causes biologiques telles que les épidémies, ou également des causes qui sont provoquées par l'homme, entendez par là les conflits armés et peut-être les incendies provoqués par les pyromanes. Donc, quand cette situation arrive de cette manière inattendue, la population se retrouve un peu dans une situation difficile où la vie est en péril, la sécurité et même le bien-être complet est tout à fait entamé. Alors, la population se trouve dans une situation de sauve-qui-peut et, par instinct de survie, ils prennent une direction pour aller chercher de l'abri. Et dans ces conditions-là également, le mécanisme normaux des défenses, donc des protections de la population, sont dépassés, donc le mécanisme de l'État sont dépassés. En ce moment-là, on parle d'une crise humanitaire qui va soulever un élan de solidarité, soit nationale et internationale. Maintenant, une crise humanitaire, il y a deux situations, deux cas de figure. C'est soit que la crise a été inattendue, on ne s'attendait pas à ça, et directement on a une crise, et alors là, les mécanismes aussi sont tout à fait différents. Mais dans le deuxième cas de figure, c'est une crise prévisible. C'est-à-dire qu'on avait déjà connu par le passé, ou bien on s'attendait à une crise, mais on ne sait pas quand, compte tenu de certains éléments en présence. Là encore, la prise en charge, elle est tout à fait différente. Alors, dans les cas qui nous concernent, je ne sais pas trop dire si on est dans le premier ou dans le deuxième cas de figure. Parce que la cause, elle était tout à fait inattendue, dans le sens que l'observatoire volcanographique de Goma était pris de court, n'avait pas vu venir la crise. Ça, c'est par rapport à la cause. Mais par rapport à la réponse humanitaire, on avait déjà connu autrefois une crise, dans ce sens, on aurait pu être dans le schéma B. Qu'à cela ne tienne, nous sommes devant une situation où les gens ont quitté leur milieu naturel, se sont retrouvés ailleurs. Dans ce genre de circonstances, un comité de crise devait se réunir, je crois que c'est ce qui a été fait, pour donner des orientations au niveau ou dans les milieux où les gens se sont dirigés pour qu'un accueil soit assuré à ces personnes qui se déplacent comme ça à la sauvette. Mais là encore, le milieu d'accueil peut-être aussi n'était pas préparé à recevoir ces flux de population. Oui. Mais on sait d'emblée, quand il y a un déplacement massif de population, il y a des besoins de manière empirique qu'il faut assurer.
Quels sont ces besoins, docteur Nsakala?
Oui, donc il faut absolument à recueillir ces personnes et les encadrer et les installer quelque part, donc là où ils peuvent avoir un abri. Et très souvent, ce sont les écoles, les églises, les terrains de football, les gymnases ou même dans certains pays, les casernes de militaires sont utilisées pour mettre ces gens à l'abri. Mais il peut arriver également qu'ils sont toujours très nombreux. Tous ces endroits ne suffisent pas. Dans ce cas-là, il faut chercher des tentes pour les mettre en plein air ou même dans les familles d'accueil comme cela se passe chez nous. Alors, à part l'abri, il faut leur trouver de l'eau assez rapidement. Il faut leur trouver de la nourriture. Surtout ceux qui ont fait des trajets, 30 kilomètres, c'est pas assez, surtout, et c'est pas un peu, surtout pour les enfants. Il faut leur trouver directement de la nourriture assez énergisante et également prévoir de l'eau, bois et de l'eau pour les services autres, les installations hygiéniques. Donc ça, c'est de manière basique, de manière empirique. Maintenant, quand ils arrivent, le service au niveau de l'accueil, on doit avoir un comité d'accueil qui doit aussi orienter les actions sur place. La première action qu'il faut faire, il faut faire une cartographie, savoir qui est où, où est-ce qu'ils se sont installés, où on les a installés. Parce qu'il y en a qui s'installent d'eux-mêmes, et il y en a qu'on installe. Deuxièmement, faire un dénombrement. Ils sont à combien? Et ça, ce sont les services classiques qui doivent le faire, c'est-à-dire les bourgmestres, l'administration du territoire ou la protection civile, la police, tous ces services-là qui sont dans la contrée. Et aussi, après les dénombrements, faire maintenant une ventilation par, catégorie sociale, c'est-à-dire les enfants d'un côté, les femmes, surtout les couches vulnérables, les femmes enceintes, les personnes de troisième âge, le malade, et aussi certaines personnes qui vivent avec handicap, par exemple. Et une fois qu'on les a classifiés, en ce moment-là, on commence à évaluer les besoins spécifiques de chaque catégorie, tout en sachant que dans pareille circonstance, il y a un risque, sur le plan sanitaire, un risque d'épidémie. Et l'épidémie la plus en vue, c'est l'épidémie de choléra. Mais il n'y a pas que ça. La malaria est endémique dans notre zone. Donc ça aussi, on doit prévenir la malaria. Et il y a également d'autres risques, notamment le risque... aujourd'hui, nous sommes en période de Covid. Un mouvement de population comme ça peut aussi être un facteur si jamais il y a un ou deux cas qui se déclenchent là-bas. Et il y a aussi d'autres risques tels que les violences sexuelles et même les abus sexuels chez les mineurs.
Oui.
Et voilà, tout cela qu'on doit essayer d'évaluer, de structurer et maintenant faire un cahier de charges par rapport à tout cela. Évidemment, ce n'est pas que au niveau de la structure d'accueil ou des structures de la zone d'accueil. Mais il y a une interaction avec le niveau régional et le niveau national.
Oui, docteur Gabin Tsakala, c'est vrai qu'il y a un comité de crise qui a été mis en place, mais on a l'impression que les interventions se font de manière isolée. Chaque humanitaire ou ONG vient, voilà, il y a des besoins ici, on intervient, mais il n'y a pas, on ne sent pas une certaine coordination de toutes ces réponses-là.
Oui, c'est justement, c'est pour ça que je dis, on se comporte comme si la crise n'était pas prévisible. Évidemment, lorsqu'il y a une crise qui n'était pas prévisible, on passe toujours par une période qu'on appelle une période critique, qui peut être de quelques jours à quelques semaines, où les choses se font un peu à la sauvette, tout en garantissant les besoins de base que j'ai énumérés, l'eau, l'abri et tout cela. Certaines aides viennent un peu de manière tout à fait, je dirais pas désordonnée, mais de manière non systématisée. Le temps que la structure s'organise, évalue les besoins et finalement fasse une demande. Parce que dans cette situation, c'est l'État qui doit voir après avoir évalué la situation, si elle est en mesure maintenant de répondre. Mais s'il n'est pas en mesure de répondre, il y a deux situations. Soit qu'elle fait appel à l'aide internationale, soit que l'aide internationale s'est saisie de la situation pour apporter. Mais même dans ces conditions-là, c'est l'État qui doit canaliser. Où est-ce qu'on doit orienter, par qui et comment cela doit se faire. Et donc, je pense que la première semaine ici, où on est déjà vers la deuxième semaine, ça peut encore un peu s'apparenter à cette période de critique, comme je dirais, le temps qu'on connaisse réellement il y a combien de personnes, il y a où ils sont. Mais maintenant, ce qu'il y a à craindre, c'est que c'est une crise qui se résout un peu. Les gens commencent à retourner dans leur milieu naturel, au moment où l'évaluation des besoins s'est faite ou encore en train d'être faite, et l'aide est en train d'être mobilisée. Parce que n'oubliez pas que l'aide humanitaire, au niveau international, elle survient, elle se conçoit sous forme de projet. C'est-à-dire, on sait par exemple qu'il y a 40 000 personnes qui auront besoin soit de l'eau, soit de ceci, soit de cela. On fait un projet pour financer ces activités. Et entre le temps où le projet est élaboré, il est soumis au bailleur de fonds, et ce que cela arrive, il va se passer un petit temps, et donc, à un certain moment, nous aurons finalement une accumulation. C'est à ce moment-là que l'aide va commencer à venir parce que ils ont finalement été libérés. Pendant ces temps, la population peut-être ne serait plus là où elle était censée être. Alors, il faut, dans ce moment-là, une réévaluation de la situation pour voir si on doit faire une réaffectation ou un suivi là où la population s'est retournée. Parce que même quand elle retourne, il y a des gens qui ont perdu des abris sur Goma. Il y a des gens qui ont perdu des effets, donc qui nécessiteraient toutefois être soutenus. Mais c'est vrai que ce que nous observons aujourd'hui, c'est un peu une phase critique où les choses se font plus ou moins un peu à la sauvette parce que la crise n'aurait pas été prévue, entre guillemets, alors qu'on avait déjà connu des choses comme ça. On aurait pu avoir ce qu'on appelle un plan de contingence. Donc, le plan de contingence, c'est quoi, en fait? C'est un outil de planification ou de gestion de crise. C'est-à-dire, fort de ce qu'on a déjà connu avant, on a plus ou moins tous les éléments, alors on fait un plan avec des données quantitatives et qualitatives où on a toute la vision, la prévision de ce qui pourrait arriver dans les prochaines crises. Donc, c'est un plan qui doit être à la fois préventif, prédictif et réactif. de sorte que dès qu'il y a une prochaine crise, on se dit voilà, tel doit faire ceci, on doit aller dans telle direction, on doit mobiliser ceci vraiment dans les détails. Ça, on aurait pu l'avoir déjà parce qu'on avait connu une crise précédente vers les années 2002.
Oui. Bon,
maintenant, avec les informations qu'on a, il semble que ce plan existerait, mais ce plan n'avait jamais été validé. Et donc, c'est là un peu où il y a quelques soucis, à mon avis.
Bien. Héritier Ouamenga nous a écrit sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission Capi Service, pour bien assurer l'assistance humanitaire aux déplacés du Nord Kivu, le gouvernement devrait solliciter l'expertise des organismes qui œuvrent dans ces secteurs, notamment les CICR, PAM, FICR, mais aussi de la Société nationale de la Croix-Rouge qui devrait bénéficier de l'appui du gouvernement afin d'intervenir pour prévenir les maladies pouvant survenir suite aux conditions les maladies pouvant surgir suite aux conditions précaires qui traversent ces déplacés héritiers depuis Kisangani. Docteur Nsakala.
Oui, c'est vrai que vu d'un certain angle, ça pouvait être comme ça, mais en réalité, il faudrait d'abord qu'au niveau du gouvernement, qu'on ait une structure qui soit à mesure de répondre à ce genre de questions. C'est vrai que pendant les crises, on est souvent dépassé, mais au moins, on aurait pu avoir au minimum une expertise. Ne serait-ce une expertise qui peut orienter le sens de choses. Nous avons, je dirais pas ça un avantage, mais peut-être un atout pour la résolution de cette crise, c'est que c'est une crise qui survient dans une zone qui est déjà notoirement humanitaire. Et donc, il y a la panoplie de toutes les agences humanitaires des différents secteurs d'intervention. Et encore, Goma, c'est l'arrière-base. C'est-à-dire, c'est là où on a, je peux dire, les dépôts, on a tous les stocks, je dirais, résiduels, qui doivent aller dans d'autres zones. Donc, vu dans cet angle-là, les comités des crises, c'est là où je parle d'un plan de contingence, auraient pu orienter déjà les partenaires qui interviennent dans l'eau, hygiène et assainissement pour dire voilà, nous avons tel besoin, on peut le faire ainsi. Les partenaires qui interviennent dans l'abri, qui interviennent dans la nourriture, tout ça. Donc ça devait être un rôle d'un leadership de l'État et non l'inverse. Ce ne sont pas les humanitaires qui doivent conduire ce que qui doit se faire sur le terrain. C'est l'État qui encadre sa population mais qui demande l'aide des humanitaires et qui accompagne cette aide-là et qui même les affecte. Parce qu'à un certain moment, il arrive qu'on ait 3, 4, 5 intervenants du même secteur dans une même zone et qu'on retrouve une autre zone dégarnie et qui n'a pas d'intervention ou qui a moins d'intervention. Et ça, c'est le rôle de l'État, à travers ce service, de pouvoir dire non, deux intervenants ici, vous, les trois autres, vous allez de l'autre côté et puis on assure le suivi jusqu'à ce que la situation va se résoudre.
Bien, nous parlons aujourd'hui de comment bien organiser la réponse face à la crise humanitaire au Nord Kivu. Docteur Nsakala nous l'a dit, c'est le gouvernement qui doit prendre les leads et peut, à la mesure du possible, solliciter également l'intervention des autres agences humanitaires. Alors, docteur Nsakala, parlons maintenant de la réponse par rapport au risque, par rapport à la santé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces côtés-là? Déjà, on signale quelques cas de choléra à gauche, à droite. Quels sont les risques si, du point de vue sanitaire, il n'y a pas une réponse bien appropriée?
Oui, évidemment, comme je dis, la crise humanitaire, elle est dans la dimension santé, dans la dimension sociale et bien-être, dans la dimension sécuritaire. Donc, sur ces trois axes-là, on doit avoir des actions spécifiques. On doit anticiper. Déjà, de manière générale, en situation de paix, c'est des zones où on a déjà une certaine épidémiologie des différents problèmes qui sévissent. Donc, on sait déjà, par exemple, la zone de Saké, qu'il y a une zone d'endémicité un peu de choléra, palus et autre chose. Donc, on doit déjà se dire qu'avec l'afflux des personnes qui arrivent et qui vont certainement faire dépasser les capacités d'intervention de la zone de santé, il faut absolument qu'on prévienne une flambée de crise liée aux problèmes qui se posent déjà dans la région en temps normal et que la situation de la crise pourrait éventuellement exacerber.
Bien, alors, docteur, un instant, on va accueillir les auditeurs. Jonas nous appelle des Kananga, Evelyne est également dans la même ville. Vous voulez participer, fidèles auditeurs, à cette émission, composez le 081-890-63-94.
Salut, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour sur nos antennes de l'émission Roundup. Je suis Nico Kalambay et je vous retrouve désormais chaque samedi de 13h à 15h pour la diffusion et dimanche de 20h à 22h pour la rediffusion. Roundup signe son retour à partir du 24 avril 2021. On se retrouve donc très vite sur les ondes avec vous.
Comment bien organiser la réponse face à la crise humanitaire au Nord Kivu? Jonas, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Joly Daniel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les invités de la Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire Jonas?
Merci Monsieur Joly. De prime abord, je tiens à présenter ma compassion, à exprimer, j'allais dire, j'exprime ma compassion en dolorie envers nos frères versions de l'Est qui sont frappés plusieurs fois par des calamités interminables. Mais pour revenir au sujet, il y a un adage Chiluba qui dit Tishi Tidia Dilukunde, Tidimunda Mualukunde. Donc je peux paraphraser en disant l'insecte qui ronge le grain des haricots est à l'intérieur de ce grain-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, à mon humble avis, c'est l'État congolais et les humanitaires qui sont assassins du peuple congolais. Pourquoi? C'est parce que je me rends compte que ils attendent qu'il y ait des calamités afin qu'ils apportent l'aide humanitaire. Tout à l'heure, peu avant le début de l'émission, j'ai entendu dans les flashs d'information de Pascal Masereka que il y a eu 52 organismes qui sont intervenus avec l'aide humanitaire à nos frères qui sont frappés par cette calamité d'éruption volcanique. Mais la question principale que je me pose, et même que je pose à l'invité, pourquoi attendre qu'il y ait calamité afin d'intervenir, alors qu'il fallait prévenir cette calamité? J'ai entendu l'Union européenne qui a donné autant de dollars. J'ai entendu les Nations unies, j'ai entendu l'Allemagne. Mais pourquoi ne pas, par exemple, prévenir ces calamités afin que nos frères de l'Est vivent quand même en paix? Parce qu'il y a plusieurs fois qu'ils sont frappés par des calamités multiformes. Ils attendent seulement que la chose se dégrade et puis ils interviennent. Et cette aide-là, M. Joly, elle va aider nos frères-là pendant combien de temps? Parce que on va donner des tentes, on va donner du riz, tout ça. Ça ne va pas leur assurer la vie. Alors qu'il y a un principe qui dit « Apprends-moi à pêcher au lieu de me donner un poisson. » Ça, c'est le poisson qu'on donne à nos frères de l'Est pour qu'ils en mangent aujourd'hui et que demain, qu'ils soient encore affamés. Alors, moi, d'après moi, la lecture par rapport au sujet du jour, la meilleure façon d'organiser l'aide humanitaire, c'est de prévenir les calamités, les attaquer et pour que ça ne puisse pas se produire. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'années, des décennies et des décennies, que ces gens-là sont en train de souffrir. Alors que l'État congolais est là, il faut qu'ils puissent travailler en collaboration et avec les
crise. Merci Jonas.
Voilà, M. Joly, la lecture que j'avais à la pause du jour. Bonne journée à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bien, merci. Comment bien organiser la réponse face à la crise humanitaire au Nord Kivu? Evelyne, vous êtes aussi à Kananga. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel, bonjour à notre invité et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Evelyne.
Oui, Daniel. Personnellement, c'est dans le sens que mon prédécesseur a abordé la question. Le problème ici n'est pas de tendre toujours la main vers les partenaires, tout ça. Non, ça n'a pas de sens et ça nous ridiculise, cette histoire-là. Que fait le ministère des Affaires sociales? Que fait le ministère de l'Environnement? Que fait le ministère du genre, femmes, familles et enfants? Tous ces ministères-là, quel est leur rôle dans ce pays? Et surtout, celui des affaires sociales, Daniel. ils savent que cette zone-là, c'est une zone à haut risque. Qu'est-ce qu'ils ont déjà pris comme précaution? Ils doivent prévoir toute une région pour construire le camp des réfugiés. Prévoir ces situations-là. Hein? Il faut le ministère de l'Environnement et les géologues qui peuvent nous aider pour voir si la zone peut être habitable ou pas. Si la zone ne peut pas être habitable, qu'on déplace automatiquement la population et définitivement qu'on ne puisse pas construire dans cette zone-là. Qu'on prévienne la situation au lieu d'apporter des solutions qui ne sont même pas adéquates. Moi, l'intervention des partenaires, personnellement, ça réduit le pays et ça donne une mauvaise image à l'extérieur. C'est comme si on est trop pauvre, qu'on ne sait même pas trouver solution à nos propres problèmes. Moi, mon problème, c'est que le gouvernement doit être très attentif. Qu'il y ait un plan pour ça. On doit planifier cette situation-là, prendre des précautions, construire le camp des réfugiés partout où les zones se proclament zones à haut risque. Qu'on construise le camp des réfugiés partout en RDC. Que le ministère des Affaires sociales prenne soin de pouvoir accomplir sa mission. L'environnement, mais ils font quoi? Cette histoire de l'aide humanitaire et d'humanitaire, et ça va être éternelle l'aide humanitaire au pays comme la RDC ici, ça fait honte. C'est trop ridicule, Daniel, je retourne à la parole.
Merci Evelyne de Kananga. Comment bien organiser la réponse face à la crise humanitaire en Orkivu? Vous voulez participer à cette émission, composez le 081-890-63-94. 081-890-63-94. Docteur Gabin Tsakala, vous avez suivi les différentes préoccupations et points de vue des auditeurs. À vous la parole.
Oui, merci beaucoup. Merci aussi pour les auditeurs qui ont intervenu. Je pense que nous devons être un peu plus calmes par rapport à cette situation. J'avais bien dit que la crise humanitaire survient sur diverses causes. Il y a des causes qui sont naturelles, il y a des causes qui sont créées par l'homme. Les causes naturelles, on ne sait rien faire face à ces crises. On sait. C'est pour cela qu'on ne peut que le surveiller. C'est pour cela qu'il y a l'observatoire volcanographique qui doit surveiller la survenue potentielle, parce qu'on sait que nous avons un type de volcan qui est particulier, qui peut déverser son magma sur le extériorisé sur Goma ou sur le Rwanda. Et donc là, on prend les précautions pour éventuellement informer la population au cas où cela devait survenir. Malheureusement, cette fois-ci, c'est survenu sans qu'il y ait des signes annonciateurs. Et là où je peux leur donner raison, c'est les mesures de prévention qu'on aurait pu prendre dès lors qu'on sait que cette situation peut arriver. Est-ce qu'il fallait lotir, par exemple, tout l'espace qui est au pied du volcan? Est-ce qu'il fallait ne pas éloigner les populations pour éviter que le jour qu'on est pris de coup, que cela puisse arriver? Ou encore dire qu'avec les risques qu'il y a, on doit délocaliser la ville de Goma. Mais là, c'est vraiment dans les causes, dans la recherche des solutions définitives. Je pense que le sens de l'intervention aujourd'hui, c'était comment organiser l'aide quand cela est arrivé. Donc, c'est... Alors, ce que je dois aussi préciser, c'est l'aide humanitaire ou les catastrophes humanitaires n'arrivent pas seulement dans le pays de faibles revenus comme le nôtre. Même les grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique ont connu des catastrophes naturelles. Rappelez-vous de l'ouragan Katrina qui a dévasté une bonne partie de l'Amérique, et les capacités de résolution de la crise des États-Unis étaient dépassées. Ils ont fait appel à l'aide humanitaire. La Chine est venue pour intervenir. Donc, pour dire que c'est des situations qui peuvent arriver, et cela ne traduit pas seulement une certaine défaillance comme telle des structures. Dans les cas de notre pays, nous avons des crises qu'on appelle des crises complexes. Il y a parfois des crises provoquées par l'homme, c'est-à-dire les conflits armés, les conflits de terre qui envoient les gens de l'autre côté, les conflits entre les pygmées, les bachois, ce genre de choses, c'est des choses qu'on peut régler d'une certaine façon pour éviter les crises humanitaires. Quand on sous un camp de réfugiés, bon, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, quand on est dans son propre pays, on n'est pas réfugié. On est déplacé interne. Hein, ça, c'est du point de vue de la sémantique. Les réfugiés sont les personnes d'un autre pays qui se retrouvent dans un autre pays fouillant les calamités. Mais dans son propre pays, on est déplacé interne. Maintenant, comme on a déjà connu ce genre de choses avec Amona Sampou, avec tout ce qui se passe sur toute la colonne l'Est, c'est pour ça que je dis, on aurait pu avoir une institution, une instance qui soit élevée à un haut niveau, soit de la présidence ou de la primature, avec des experts qui savent gérer toutes les crises complexes et qui puissent avoir une autonomie de gestion, qui puissent avoir une expertise avérée pour éviter qu'il y ait, par exemple, le poids d'une institution ou d'un ministère par rapport à l'autre, cette institution soit autonome, qui puisse conduire les actions de prévention, les actions
Docteur Gabi,
également les actions de réaction en cas de survie.
Docteur Gabi Ntsakala, nous savons qu'il existe au ministère de l'Intérieur le service de la protection civile. Est-ce que faut-il encore créer un autre service qui dépend de la présidence pour gérer les catastrophes, pour venir les catastrophes?
De mon point de vue, les services de la protection civile dépendent d'un ministère. Or, quand vous voyez la crise telle qu'elle se présente, avec les conséquences multiformes, il y a parfois dualité des compétences. Vous voyez, la conséquence est plus sévère, c'est la santé qui tire le gros des interventions. Quand la conséquence est plus sécuritaire, c'est soit le service de sécurité qui tire. Alors, vous savez comment se répartit les allocations au niveau des ministères. Quand l'allocation va dans un ministère, les autres, bon, ils sont attentistes, mais ils n'ont pas l'emprise. Mais quand l'institution est élevée au niveau, au-delà d'un ministère, à un niveau plus élevé, donc tous les experts se retrouvent dans cette structure. Alors là, ils ont leur autonomie de gestion et d'action. Je pense que ça peut plus aider que d'avoir les institutions qui sont dans tel ou tel autre ministère qui peuvent soit s'accaparer, entre guillemets, les missions et les allocations et les actions au détriment d'autres secteurs. Moi, c'est comme ça que je perçois la situation.
Bien. Comment bien organiser la réponse face à la crise humanitaire? Donc vous avez dit la réponse doit être donnée sur trois axes, le bien-être, la santé et sur le plan sécuritaire. Alors parlons sur le plan sécuritaire, comment organiser cette réponse humanitaire?
Oui, sur le plan sécuritaire, c'est cette sécurité des populations. Est-ce que la population se sent sécurisée par rapport à l'incident? Le fait qu'il y a coulé des laves ne sécurise pas les gens, c'est-à-dire qu'ils perdent des abris, ça brûle les maisons. Donc, on doit voir de ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme solution, comme abri, parce qu'ils se trouvent en insécurité tant physique, en insécurité morale, en insécurité par rapport même à leur vécu. Bon, ben, il y a une autre insécurité, c'est par rapport à certaines zones où on sait qu'il y a des conflits armés, où il y a des milices armées qui peuvent attaquer. Vous avez déjà entendu parler des convois humanitaires qui sont attaqués par le coupeur de route ou bien par quelques bandits. Donc tout cela aussi, et quand je parle de la sécurité, c'est la sécurité aussi de personnes bénéficiaires de l'aide. Ils ont une droit à une certaine dignité. Alors, on ne doit pas faire des objets de propagande, comme on le voit quelquefois, parce qu'on leur a apporté deux sacs de ceci ou deux sacs de cela, on fait tout un document un peu comme pour se moquer d'eux.
Oui.
Ça, c'est des éléments aussi qu'il faut tenir compte. Ils ont droit à la dignité, et donc ils ont droit à une certaine sécurité. Et la sécurité aussi, par rapport, je parle des jeunes filles qui peuvent être victimes de violences, des viols, des abus, et tout cela doit être pris en compte lorsque on est en train de gérer une crise humanitaire. Non, le fait qu'on se retrouve dans une zone en état de siège peut être un atout pour garantir cet aspect de sécurité, je me dis qu'avec la discipline militaire et policière, on peut éventuellement prévenir ce genre de situation.
Bien, l'ordre d'évacuation a été donné, les gens sont partis, mais avant que l'ordre de retour ne soit donné, bon, on voit déjà les gens retourner à Goma, parce que là où ils étaient partis, il n'y a rien, il n'y a pas de structure d'accueil, il n'y a pas aucune intervention. Maintenant, pour ceux-là qui retournent déjà, qui rentrent vers chez eux, comment les assister?
C'est là le problème. Comme je dis, les gens sont partis par instinct de survie. Ils disent « on va d'abord ». Le temps de faire passer la catastrophe. Maintenant, là où ils sont allés, comme j'ai dit, la structure n'était pas préparée pour bien le recevoir, et donc ils se rendent compte que ils sont autant entre guillemets en insécurité alimentaire que rentrer par exemple chez eux. Je suis même un reportage où quelqu'un dit autant mourir de feu que mourir de faim. Bon. Donc, à ce moment-là, il y a un réflexe de retour chez soi. Mmh. Mais je reviens sur ce que je dis. Pendant ces temps, l'organisation de l'aide est entrée, de dénombrer, est entrée de faire un état des besoins, qui tient compte de toutes ces personnes qui rentrent chez eux. Donc, il arrivera que après deux semaines, un mois, que l'aide finalement va surabonder sur ces territoires-là au moment où les gens ne sont plus là. Et donc, il est question que ces personnes puissent être traçables pour que lorsque l'aide va arriver, qui tenait compte de leurs objets et de leurs besoins particuliers, qu'on puisse le retracer et qu'on puisse leur apporter cette aide-là. Parce que, comme je dis, parmi eux, ou parmi elles, ces personnes, il y a ceux-là qui ont perdu leur maison. Il y a ceux-là qui ont perdu les effets et ceux-là qui devaient être bénéficiaires. Mais si jamais on se rend compte que, bon, le besoin n'est plus là, et ça, c'est l'État avec les partenaires qui vont se décider pour dire est-ce qu'on en fait un stock de réserves au cas où il y aurait une prochaine crise,
Docteur Tsakala,
on consolide.
Oui. Mais je pense que l'aide peut être à trois niveaux. Ça peut être, on peut apporter une aide d'urgence à court terme. Il y a aussi une aide à moyen et à long terme parce que les gens ont perdu les maisons, certains ont perdu leurs activités économiques, ils doivent reprendre les activités à zéro. Est-ce que on peut pas continuer à les assister, à les encadrer jusqu'à ce que ils vont reprendre leur cours de vie normal?
Oui, c'est ça que je dis. Ça doit faire l'objet d'une discussion entre la partie nationale et les partenaires. Mais n'oubliez pas que très souvent, comme je dis, que cette aide-là survient sous forme de projet. Et donc, l'aide a été libérée sur base d'un cahier des charges qui a été présenté. Et très souvent, le bailleur de fonds n'accepte pas que l'argent qui a été prévu, par exemple, pour qu'on mette 5 bladères d'eau quelque part, puisse après changer de destination et puisse finalement commencer à soutenir le commerce de quelqu'un. Ça ne s'explique pas. Vous comprenez la difficulté qu'il y a par rapport à ça. Donc, on dirait simplement que soit on réoriente dans un terrain où les problèmes similaires se posent, ça c'est possible, ou encore on se dit on consolide les acquis du milieu. Par exemple, sur Sake, on savait déjà qu'avant la crise, Sake avait aussi quelques problèmes, notamment l'eau, notamment les CC. On s'est dit, bon, comme c'était prévu pour Sake, les gens sont partis. Ceux-là, on peut éventuellement le retrouver là où ils sont, peut-être apporter l'aide de même nature qui a été évaluée comme besoin. C'est possible. Mais soit qu'on dit, bon, on reste à Sake, on consolide là où il n'y avait que, par exemple, 6 points d'eau, on va en faire 12, on va en faire 20, parce que l'aide a été libérée en fonction de ses besoins de Sake. Donc c'est comme ça qu'il faut voir ça.
Bien, on va accueillir Shadrack de Mbujimaï. Bonjour. Shadrack, vous êtes en Mbujimaï. Bonjour.
Non, c'est plutôt Joël, c'est une fois Shadrach, s'il vous plaît.
C'est plutôt Joël, vous êtes en Boujimaï. Nos excuses.
Non, Joël, pas du tout. Jacques, c'est à partir des Maki, s'il vous plaît.
D'accord.
Joël, à partir des Maki. Hein.
Ben, Tati m'a signalé qu'il y a Shadrach de Boujimaï. D'accord, il n'y a pas de souci.
Okay.
Joël, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette thématique?
Merci, bonjour aujourd'hui et bonjour à notre invité du jour. J'ai un peu de proposition que j'aimerais en tout cas partager avec notre invité. Vous savez, aujourd'hui, pour répondre réellement et correctement à ces crises actuelles dans vers Goma, en tout cas, moi, je proposerais d'abord à notre État, de trouver des sites. Une fois, trouver des bons endroits. Alors, il faudrait qu'on puisse arranger un peu ces sites-là pour ces victimes de ces catastrophes. Une fois arrangé ces sites, il faudrait qu'on puisse faire donc qu'on dégage un peu ces gens-là, qu'on les dégage. Parce que vivre dans des familles d'accueil pendant beaucoup de temps, ça commencera aussi à poser des problèmes sérieux. Alors, une fois déplacer ces gens-là dans ces sites bien arrangés déjà, maintenant, il faut qu'il y ait une équipe qui va descendre sur le terrain en fait de palper les besoins de la population. Parce que quand on va aussi déplacer les gens sans pouvoir palper leurs besoins, ça sera aussi un problème sérieux. Une équipe qui va partir palper les besoins de la population. Une fois qu'on dit tout cela, il faudra que notre gouvernement d'abord lui-même puisse commencer à bouger. Parce que c'est sa population. On ne peut pas commencer à courir dedans, donc chez les organismes, venir commencer à aider la population. Ce n'est pas ce qu'il peut se faire. C'est honteux pour nous. Donc, il faut que l'État puisse commencer d'abord lui-même à aider sa population. Une fois au sens que ça ne répond pas toujours, à ce moment-là, on peut faire appel aux différents organismes et venir compléter ce qui va manquer pour ces victimes, mais pas commencer à appeler les gens, c'est un peu honteux. Parce que nous avons quand même des services, nous avons des ministères là spécialisés en matière qui ont fait la mort maintenant, et on sera en train d'attendre tout venir d'ailleurs. Et ces gens-là, malheureusement, ils vont aussi venir en nous donnant des histoires qui sont malsaines pour la santé, et à leur tour, ils vont maintenant exploiter nos biens et laisser la population malade après deux, trois mois, nous aurons encore des cas d'épidémie. Là, c'est la première des choses. Donc, la deuxième, maintenant, il faudra qu'il y ait maintenant une équipe qui sera en train de faire les suivis. Parce que des fois, moi, je ne comprends pas notre gouvernement. Il peut y avoir des problèmes quelque part. La population est malade, la population est victime, souffre. Maintenant, on leur a donné un peu du riz. Après cela, au lieu de donner, peut-être, si on avait peut-être donné 10 000 dollars pour la population, maintenant, on va se surprendre que sur terrain, la population est en train de vivre avec 3 000 dollars. Donc, c'est un peu compliqué. Il faudra que l'État vraiment prenne des histoires au sérieux quand même, s'il vous plaît. Des trop d'ennuis et des trop d'argent, bon, il faut qu'il y ait une équipe qui sera en train de vérifier si réellement les argents que tout le monde a donné pour la population de Goma,
est-ce que les bénéficiaires
les gens ont en train de vivre, etc. Parce sinon, c'est vraiment c'est bizarre pour nous. Je vous dis, et je vous remercie, Joël, de Boujimaï.
Bien, merci. Il faut une équipe de suivi pour s'assurer que les dons distribués sont arrivés à destination. Docteur Gabi Ntakala. Docteur Ntakala.
L'intervenant a raison. C'est là où je parlais du fameux plan de contingence. Le plan de contingence devait contenir tous ces éléments. Donc, je vous avais dit que c'est le plan de contingence à trois dimensions. Une dimension préventive, une dimension prédictive et une dimension réactive. Donc, on devrait déjà se dire, maintenant qu'on a connu une crise liée au volcan, voilà comment on peut se comporter dans l'avenir. On a tous les cas de figure possibles. Dès qu'il y a coulée de lave qui va vers Gisenyi, c'est peut-être les gens de Gisenyi qui auront tendance à venir vers chez nous. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans le cas de Goma, ce plan de contingence doit avoir une composante internationale avec le Rwanda. Parce que comme vous le savez, on a presque la même structure sur le plan sismique et géologique. Donc ces coulées de lave, soit il va vers le Rwanda, et c'est le Rwanda qui sera en difficulté, va venir vers chez nous, soit ça vient vers nous, nous aurons à discuter, une bonne partie de la population peut aller chez eux. Et donc, on doit déjà savoir qu'en pareille circonstance, qu'est-ce qu'on doit faire? Qui doit faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit mobiliser? Dans quelle position cela doit aller? Et qui sont les acteurs? Comme on dit, nous avons la protection civile, nous avons la police, nous avons les SMIR des forces armées, nous avons les affaires sociales, nous avons les gens, nous avons. Toutes ces structures doivent être responsabiliser chacun suivant son domaine d'intervention à pouvoir faire une action précise par rapport à ça. Bon, on m'a dit que c'est existeré et il ne reste plus qu'à le valider. Donc c'est de cette façon qu'on doit savoir faire les choses. Bon, je peux comprendre aussi que le pays a beaucoup de besoins. À un certain moment, on dit qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Malheureusement, pendant ces temps, les incidents arrivent et nous payons cash.
Bien. Il y a aussi une préoccupation, docteur. Vous avez dit que le plan, face à la crise humanitaire, il faut apporter une réponse pour assurer le bien-être de la population, la santé. Ça touche également le plan, la sécurité des populations. Mais on a suivi pour les populations qui sont déplacées de Goma ont beaucoup plus besoin de l'information. Il semble qu'il y a un problème de communication. Les gens n'ont pas des bonnes informations au bon moment. Il y a beaucoup de cacophonie. On est parti. On nous dit pas quand est-ce qu'on va revenir. Qu'est-ce qui doit être fait, tout ça. Alors comment organiser une bonne communication autour de cette crise, docteur Nsakala?
Oui, merci beaucoup, Jody. Vous avez bien fait de soulever cette action parce que la communication, tout projet d'intervention est un élément déterminant. C'est même le facteur de succès. C'est le carburant qui doit accompagner toutes les interventions. Par rapport à une crise humanitaire de ce genre, nous devons structurer la communication sur trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau institutionnel et stratégique, c'est-à-dire au niveau le plus élevé de l'État, du gouvernement, il faut que le gouvernement communique en deux termes clairs et à temps utile sur ce qui se passe dans le pays, donner des garanties qui sont en train de contrôler et gérer la situation. Et de mon point de vue, jusque-là, cela s'est fait de manière satisfaisante avec le brillantissime ministre de l'Information, Patrick Muyaya. Maintenant, au deuxième niveau, nous devons avoir une communication opérationnelle interne, c'est-à-dire externe d'abord, c'est-à-dire dans le champ des opérations, dans les zones où les gens se retrouvent avec cette aide humanitaire, on doit avoir une communication de la partie nationale qui doit montrer comment nous sommes en train de gérer la crise au niveau du terrain. C'est-à-dire que les médias internationaux qui viennent pour couvrir et tout ça doivent entrer en interaction avec la partie nationale pour que les choses telles que ça se passe sur le terrain soient connues, elles soient diffusées. Non seulement les médias internationaux, mais nos propres médias, surtout nos propres médias, doivent suivre la situation sur le terrain, parce que en montrant par exemple qu'il y a une population qui s'est arrêtée quelque part ou qui est allée quelque part, qui n'a pas bénéficié, ça peut aider les gens qui sont en train de gérer l'aide de pouvoir corriger. Mmh. Et éventuellement aussi de pouvoir donner la confiance aux intervenants et puis aux donateurs que la situation est sous contrôle. Vous voyez ? Maintenant, le troisième niveau, c'est la communication opérationnelle, mais cette fois-là interne. C'est-à-dire la relation entre le bénéficiaire et les interventions. Les gens doivent savoir où se donnent les riz, à quel moment cela se donne et quelle quantité ils doivent avoir. Et pourquoi on doit donner, par exemple, à telle catégorie telle denrée ou telle telle aide, et pas à d'autres. Vous comprenez? Parce que quelquefois, on a fait un programme, on s'est dit, bon, on va servir les femmes enceintes avec le kit qu'on appelle le kit d'accouchement, kit de dignité. Dedans, il y a couverture, il y a ceci, il y a cela. Mais une catégorie de femmes n'auront pas reçu et ils ne comprennent pas pourquoi eux ne sont pas.
Oui. Alors, donc, il faut bien communiquer là-dessus.
Il faut bien communiquer, mais aussi communiquer par rapport aux interventions. Parce que n'oubliez pas que l'aide, c'est pour le bénéficiaire. Et donc, il faut qu'à un certain moment, que le bénéficiaire eux-mêmes se retrouve au centre de la distribution. Et c'est là où il est conseillé d'impulser ce qu'on appelle la dynamique communautaire. Dans un certain moment, il faut qu'il y ait un leadership de chefs de groupements, les chefs de villages, pour qu'eux-mêmes canalisent, parce qu'ils connaissent plus ou moins les gens avec qui ils sont, et qui peut recevoir, qui n'a pas reçu. Et donc, cette communication-là, elle est très importante. Sans toutefois oublier une communication pour la prévention de maladies, ou pour la prévention, ou pour la, comment on appelle ça, pour l'offre de services. C'est-à-dire, le malade, on doit savoir où est-ce qu'il doit aller pour les soins, et comment on le reçoit. Vous voyez, c'est toute cette série de communications qui doit être structurée, pardon, pour aider finalement à la réussite de toute action humanitaire. Mais malheureusement, très souvent quand on planifie, on oublie ces aspects de situation. D'ailleurs, la communication a toujours été le parent pauvre, hein, des allocations, parce qu'on pense que, bon, la communication, tout le monde peut la faire, la communication, mais c'est seulement quand on se bute à un échec, à ce moment-là qu'on revient pour dire la communication n'a pas marché.
Voilà, la communication n'a pas marché. On va clôturer cet entretien avec vous, docteur Gabi Nsakala. Qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement par rapport à tout ce qu'on a dit face à une crise humanitaire? Comment bien organiser la réponse?
Il faut absolument que le pouvoir organisateur de la zone puisse être en mode réactif, en mode crise, pour suivre, évaluer la vulnérabilité de la population concernée, évaluer les capacités d'intervention, évaluer aussi les capacités des institutions qui peuvent venir en aide. Ça, c'est la première chose lorsque la crise arrive. Deuxièmement, comme cela se passe très souvent de manière inattendue et que c'est la population qui prend la direction qu'elle veut prendre par rapport à son instinct de survie, il faut qu'il y ait un monitorage pour savoir où est-ce que la population est en train de partir, de manière à avertir, de manière à sensibiliser la zone d'accueil à pouvoir apprêter les minimums d'accueil dans le sens de pouvoir orienter les populations qui vont arriver vers les écoles, les églises, les terrains et tout ça. Troisièmement, il faudrait au même moment qu'on puisse déjà voir soit dans la réserve de la République, soit en partenariat avec certains partenaires, comment assurer déjà le premier besoin de base, qui sont le besoin de l'eau, le besoin de nourriture, et puis le besoin lié aux installations sanitaires. Et quand je parle de besoin de nourriture, dans un premier temps, il faut que ça soit de la nourriture préparée, c'est-à-dire de la soupe chaude, de biscuits, de beignets, de ceci. Parce que les gens, quand ils marchent comme ça, ils viennent, ils ont besoin de quelque chose pour qu'ils puissent retrouver les énergies. Ce n'est pas le moment de leur donner les sacs d'haricots, alors qu'on ne sait même pas encore où est-ce qu'ils seront, comment ils vont les préparer et tout ça. Donc, dans la phase critique, là, il faut qu'il y ait un repas prêt à être consommé, des bouteilles d'eau, de tout cela. Maintenant, une fois qu'ils sont installés quelque part, c'est à ce moment-là qu'on fait cette évaluation de besoins selon les catégories sociales telles que les enfants, les femmes, les vieillards, les malades et tout cela. En ce moment-là, on commence les besoins spécifiques. On peut leur donner des casseroles, des couvertures, et puis des sacs de foufou, des sacs de ceci. Donc voilà, de manière générale. Et puis, la communication doit être unique. On doit faire comprendre aux gens ce qui est en train de se faire. Et puis surtout, le média doit être faire un travail de reportage de terrain. Pas des reportages du genre les originaires de ceci ont donné cela. C'est pas vraiment ça. C'est dans le faire parler les bénéficiaires. Comment ils vivent? Comment ils reçoivent l'aide? Est-ce qu'il y a encore des besoins non couverts? Comme ça va aider l'État pour bien canaliser, orienter ce qui manque. Voilà, de manière générale, ce qui est convenu à faire.
Bien, docteur Gabi Nsakala, spécialiste en santé humanitaire, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci.
Il est 11h à Kinshasa.